Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthès
107 FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et les auditeurs, les auditrices de Palabre en forêt sur Radio Barthès 107 FM. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes à Méjane-les-Alès. Bonjour Margot.
Et salut.
Bonjour Léo.
Et salut.
Voilà. Et nous sommes au salon TAF. Donc un salon de l'emploi et avec justement eh bien, un bel espace pour la filière forêt-bois où on y est actuellement assis. Et on accueille du coup pour nous présenter, mais qu'est-ce que c'est ce salon TAF? On accueille Annie Guédou qui est chargée de mission relations entreprises à l'agence de développement Alès Myriapolis sur le bassin alésien. Bonjour Annie Guédou.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors déjà le salon TAF, qu'est-ce que ça veut dire TAF?
Le salon TAF, c'est Travail Avenir Formation, qui est un événement organisé par la région en partenariat effectivement avec France Travail, avec la mission locale Cap Emploi et puis en tant que partenaire Alès Agglomération.
Ça fait longtemps qu'il existe ce salon, qu'il est organisé sur Alès?
Sur Alès, c'est le quatrième salon. Donc, c'est un salon qui a accueilli déjà l'année dernière 2500 visiteurs. Et cette année, à cette heure-ci, nous sommes à 2900.
Merci. Donc, on est à la mi-journée, aux alentours de 15h. Ouais.
C'est bien ça. Voilà, donc effectivement, le salon de TAF, les demandeurs d'emploi peuvent y trouver effectivement tout un espace recrutement avec cette année 107 entreprises représentées qui ont environ 540 offres d'emploi proposées pour 650 postes. On peut y trouver également différents espaces. Donc cette année, il y a un zoom particulier sur la filière bois et puis les métiers de l'industrie, donc Alès étant le deuxième territoire industrie de la région Occitanie. On y retrouve de l'industrie multisecteur et également de l'industrie nucléaire. Ensuite, d'autres espaces, donc des partenaires institutionnels, des partenaires de la région Occitanie, tels que des CFA, des organismes de formation. Ensuite, dans les organismes de formation, il y a notamment à travers les CFA, des démonstrations métiers qui donnent une idée bien précise des métiers que peuvent découvrir des demandeurs d'emploi en recherche de projets professionnels. Voilà, et puis
j'ai cru comprendre aussi, donc on peut venir pour du recrutement, mais il y a aussi d'autres appuis possibles à ce salon TAF.
Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez la possibilité de rencontrer des partenaires qui peuvent vous orienter sur vos projets professionnels, vous accompagner sur votre projet professionnel. Vous avez également tout ce qui concerne la mobilité vers l'emploi.
Eh bien, merci beaucoup Annie Guédou de nous avoir présenté ce salon TAF.
Merci à vous.
Et du coup, on est parti Margot pour faire un petit tour des entreprises de la filière forêt-bois.
Ouais, carrément, ça va être passionnant. Alors là, on est en compagnie de Célia Faiton qui est chargée de mission emploi et formation au sein de l'association Fibois Occitanie. Bonjour Célia.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton poste et ce que c'est Fibois Occitanie?
Alors, je vais commencer par Fibois Occitanie. Fibois, c'est l'association interrégionale de la filière forêt-bois. Ça veut dire, donc pour l'Occitanie, et ça veut dire concrètement que l'association regroupe les différents acteurs de la filière. Donc on a des représentants des propriétaires forestiers, de ceux qui gèrent la forêt, des récoltants, ceux qui ensuite font la première transformation, c'est-à-dire le sciage, les premiers produits bois, comme les palettes ou les emballages bois. Et ensuite, on a des représentants de la construction bois, menuiserie, charpente, etc. Et ça va jusqu'au métier d'art, des arts du bois, et la chimie verte, et des centres de formation, et voilà. Et évidemment, le papier, le carton, enfin voilà. Donc c'est l'ensemble de la filière qui est représentée au sein de Fibois. Et mon poste plus précisément, c'est l'emploi formation. Donc j'accompagne les acteurs de la filière sur cette thématique-là.
Et tu nous as parlé d'un site internet qui était très bien fait, je crois.
Alors il s'agit en fait du site métier au pluriel, -forêt-bois.org, sur lequel on retrouve un petit quiz d'orientation, des petits jeux, le vrai faux de la forêt, des fiches métiers, une cartographie de tous les centres de formation en Occitanie mais en France aussi, et toutes les formations du CAP à Bac plus 8.
Et j'en profite aussi pour te poser la question. Donc là, on est en début d'après-midi. Comment ça a marché donc ce matin? Est-ce que les gens sont venus poser des questions? Enfin, voilà, l'échange avec les gens, comment ça s'est passé pour toi?
Très très bien. En fait, j'ai été très heureusement surprise. Et c'est toujours un plaisir de voir combien le bois, en fait, ça évoque quelque chose chez le visiteur. On n'est pas insensible à ce matériau. On a envie de le toucher, de le voir, parfois de le sentir, enfin voilà, il se passe quelque chose. Et ce matériau-là, au-delà de ce simple matériau, on voit qu'il raconte aussi une histoire en chacun de nous. Et c'est ça, c'est vraiment important, c'est de remettre ce lien-là avec la forêt, sans l'idéaliser, parce qu'on parle de récolte forestière, d'entretien des espaces contre les incendies, enfin, il y a des choses très, très concrètes derrière tout ça, mais c'est de replacer ce rapport qu'on a avec ce matériau qui parle à tout le monde, avec cet espace qu'est la forêt, qui parle à tout le monde, hein, de tous nos imaginaires, quel que soit le pays d'où on vient. Et ça, c'est important, c'est de montrer qu'on a un peu perdu ce fil, peut-être, avec la filière forêt-bois, où on ne la voit plus, ou alors on n'y prête plus gare. Et ça, c'est intéressant de voir qu'en fait, les gens, ils sont attachés à ce lien avec le matériau bois, avec l'espace de la forêt, et de montrer qu'il y a une variété de métiers qui est accessible aux hommes comme aux femmes, aux jeunes ou en personnes en reconversion. Et ce matin, c'était vraiment ça. Le public, c'était à la fois des très jeunes qui ont eu l'expérience de travailler avec un stage en troisième, par exemple, chez un menuisier, chez un paysagiste, etc., qui ont découvert le bois, qui se sont dit « pourquoi pas ?» Et au fur et à mesure, même sur des publics en reconversion, même sur un public qu'on peut dire peut-être un peu plus éloigné de l'emploi, mais voilà, il y a de l'intérêt pour cette filière. Grâce à cette variété des métiers, c'est à la fois des métiers très traditionnels pour certains, et puis il y a aussi beaucoup de modernité, beaucoup d'innovation, et ça c'est d'autant plus intéressant que c'est aussi une filière qui est portée vers vraiment l'avenir, avec, faut pas l'oublier quand même, la filière forêt-bois, c'est une des filières stratégiques dans le cadre du plan carbone, hein, et donc voilà, remettre tout ça dans cet enjeu-là, dans cette familiarité-là, c'était super chouette, en fait. On a eu des super contacts. J'ai adoré.
Célia, donc, nous sommes sur le stand de Fibois. C'est un espace dédié à la filière forêt-bois. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ici?
Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà, quelques produits bois pour illustrer un peu ce qu'est le bois, qu'est-ce qu'on en fait, montrer que le bois, en fait, il est dans notre quotidien, partout, que la forêt, elle est dans notre paysage, dans nos yeux, quand on se réveille le matin, quand on se balade en forêt, évidemment, mais même quand on prend la route, que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent à aménager ces espaces, à entretenir ces espaces, et que de ce bois que l'on récolte, il faut savoir le récolter de façon durable, on vient ensuite le valoriser au mieux, donc cette ressource qui est locale, hein, et là la déclinaison elle est multiple, donc j'ai une petite cagette en bois, j'ai des échantillons de différentes essences de bois pour montrer leurs spécificités, leurs caractéristiques, les odeurs, le grain, la couleur, et puis voilà, de plein de petits objets comme ça. Et puis exactement, j'ai aussi des casques de réalité virtuelle, et donc ce sont 4 casques où on immerge le visiteur dans un petit film à 360 degrés, et ça vient présenter 4 aspects ou 4 moments de la filière, l'amont forestier, la première transfo, le sillage, ensuite on va dans une entreprise de menuiserie agencement, et ensuite dans une entreprise de construction charpente bois.
Vivre le métier comme ça virtuellement, d'accord. On va le tester, Margot, hein?
Ouais, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce qu'on y trouve d'autre du coup sur l'espace
Alors j'ai aussi un petit jeu qui est assez simple, sympa, ce que j'appelle la timeline des métiers. En gros, c'est de placer des cartes assez visuelles avec des noms de métiers ou des noms de phasage, et de reconstituer de l'amont jusqu'à la livraison de la maison ou de la cuisine finie, toutes les étapes nécessaires pour en fait, cet objet de notre quotidien. Voilà, j'ai cette table, j'ai cette cuisine, j'ai cette planche en bois dans ma cuisine. Quel chemin il a fallu avoir et quels sont tous les intervenants qui ont permis d'avoir cette planche.
Super, et on va partir à la rencontre de ces métiers et de ces différentes personnes. Merci beaucoup Célia.
Merci.
Avec plaisir.
Et donc nous rejoignons Monsieur Guy Troupel, donc, qui est responsable technique au lycée Revel, qui est un lycée sur les métiers d'art et du bois. Et voilà, bonjour Monsieur Troupel.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc sur quoi forme ce lycée ?
Oui, alors nous avons deux types de formations. Nous avons des formations pré-bac, donc CAP, bac pro et BMA. Le BMA, c'est un brevet des métiers d'art. Ensuite, on a des formations post-bac, BTS, licence pro et DNMAD. DNMAD, c'est diplôme national des métiers d'art. Voilà, à noter que l'établissement a plus d'élèves en post-bac qu'en pré-bac. Et pour la petite histoire, nous avons plus de public féminin que masculin.
Ah ouais.
Voilà. Ce qui nous permet de vivre, c'est le côté technique, c'est le côté professionnel, le côté industriel qui nous rapporte de l'argent à travers la taxe, à travers tout, voilà, ça nous rapporte de l'argent. Par contre, ce qui nous donne l'aura de l'établissement, puisqu'il est connu un peu partout en France, c'est l'aspect artistique, voilà, l'aspect métier d'art. On a des formations qui sont uniques en France, qui sont très rares sinon. Unique en France, c'est la finition sur bois, où on fait de la laque, des finitions très spéciales, très particulières. Et rare en France, on a le menuisier siège, et puis bien d'autres qui sont assez rares en France aujourd'hui.
En parlant de sièges,
oui.
Nous voyons ici deux types de sièges magnifiques, splendides. Mmh. On mettra les photos donc, sur le site de Radio Bartas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, celui-là avec des lignes très, très courbées, en quelle essence et l'histoire
Alors, celui-là, il a été fait par des menuisiers sièges, donc des CAP, en un an. Donc, ce sont des gens qui ont déjà un bac ou un autre CAP et qui viennent faire une formation complémentaire. Donc, il en reste trois en France et on est une des trois formations. Donc, celui-là, il est fait en chaîne. Il a été dessiné par les élèves au niveau art appliqué et après, il a été réalisé à l'atelier. Le second, c'est une chaise qui est plus industrielle. Elle est faite sur des commandes numériques avec la décoration qui est faite au laser. Donc ça apporte un complément en fait.
C'est deux méthodes qui sont tout à fait différentes, c'est ça ?
Oui, qui sont complémentaires. Une, c'est plus un produit artistique. L'autre, c'est plus un produit qu'on va fabriquer en série. On fabrique le meuble en série, le produit en série, là. Et ensuite, on va faire le dessin qu'on veut. Là, j'en ai une vingtaine dans l'atelier. Les 20 ont un dessin différent. Voilà. Ça donne une flexibilité.
Et du coup, voilà, vous êtes donc aujourd'hui au Salon TAF. Comment ça s'est passé pour vous aujourd'hui la rencontre avec le public ?
Eh bien, curieusement, j'ai eu beaucoup de monde tout le matin, de gens qui cherchent des reconversions, des moyens de se reconvertir. Alors, il faut trouver les finances, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais le bois est un matériau où les gens ont envie de retrouver l'essence du bois, toucher le matériau, ont envie d'arrêter le côté un petit peu intellectuel des choses, le côté informatique, et de revenir. Donc, j'ai beaucoup de demandes pour le CAP ébéniste, notamment. Et d'ailleurs, nous, on a des formations pour adultes, et on a le CAP ébéniste, où on a un groupe autonome. C'est-à-dire, on a que des adultes, voilà, qui viennent avec différents types de contrats, et c'est un diplôme qui marche assez bien, où les gens après veulent s'installer, devenir ébéniste, chacun à sa façon. Les
beau.
CAP marketeurs font un module qui est assez rare en France,
oui.
Ils font de la marqueterie de paille. Donc ça c'est de la paille.
Ça
c'est de la paille qui est colorée.
Magnifique.
Et donc là on a un enseignant qui est capable de faire ce genre de produit, c'est assez rare. Hein. Voilà.
En fait c'est quoi
la marqueterie, c'est vous prenez l'arbre, vous le déroulez, ça fait des petites tranches qui sont inférieures au millimètre, ou des fois supérieures, mais en général inférieures, ce que vous avez là. Et vous le découpez de façon à donner une forme particulière, la forme que vous voulez.
Comme ça on peut retravailler.
Comment ?
On peut le retravailler comme on souhaite.
Comme on veut, on fait un dessin et après on va recréer ce dessin avec du plaquage en bois qui est très fin, 7/10, enfin voilà. Par exemple, on a une jeune fille là qui est partie, qui était en DNMAD là, des Edman Marqueterie Contemporaine. Elle a été employée par Rolls-Royce en Angleterre et elle fait les tableaux de bord en marqueterie.
Ah, oui,
on en a qui partent aussi équiper les avions privatifs, les bateaux.
Donc la filière bois s'insère dans la filière automobile, dans la filière
aviation. Le bois, ça peut être un produit de luxe. Nous, on travaille avec Versailles en restauration de meubles anciens, avec le groupe Hermès. Et puis, c'est en fait, on tape dans le luxe à un moment donné. C'est dans le luxe, dans le haut niveau, quoi. Voilà.
Très bien. Et le bureau, alors, qu'on voit à côté,
qui est
splendide.
Alors, le bureau, c'est un produit des brevets des métiers d'art. Donc les élèves, en fait, quand ils viennent chez nous, les élèves ou les adultes, ils font 2 ou 3 objets confectionnés par an dans l'année. Et après, ils partent avec une fois qu'ils l'ont fini. Alors certains ne le prennent pas pour des raisons qui leur appartiennent. Et nous, à ce moment-là, on les revend aux gens qui viennent chez nous, qui viennent voir. Voilà. Oh, ça vaut dans les 250 euros. Ouais.
Et quelle essence ?
Alors là, il est en frêne, celui-là.
Il est superbe.
Alors, il faut être un peu connaisseur, mais en fait, c'est un bureau art déco.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc on reconnaît un petit peu la ligne particulière.
D'accord.
On va repartir avec, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
On change la voiture ?
Mais les gens qui viennent visiter le mobilier chez nous, en fait, ils repartent en achetant un truc. On a un espace de vente et voilà, là j'ai amené que ce que je peux amener, mais il y a des choses qui sont très très belles. Et puis en fait, ça part de créativité au départ. Nous, à Revel, on fait la création du produit. Mmh. Ensuite, on le conçoit, c'est-à-dire on le met sur dessin avec les différentes formes des pièces, les assemblages, etc. Et ensuite, on le fabrique. Donc il y a toute cette chaîne-là. Voilà.
Et on ne l'a pas demandé, on aurait dû le demander dès le départ, mais Revel, où est-ce que c'est ?
Ah oui, alors Revel, c'est au pied de la Montagne Noire, à côté du lac de Saint-Féréol, qui est un lac magnifique. Mm-hmm. Et vous formez un triangle entre Toulouse, Carcassonne et Castres, et ça se situe pile poil au milieu, c'est-à-dire à 3 heures d'Alès.
Merci Guy Troupel.
Voilà, bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
On est maintenant avec Florent Boucher, qui est conducteur de travaux chez Environnement Bois Énergie, une entreprise qui est basée au Salle du Gardon. Salut, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous présenter déjà Environnement Bois Énergie, qu'est-ce que c'est comme entreprise, qu'est-ce que vous faites ?
Alors Environnement Bois Énergie, c'est une entreprise familiale d'une petite trentaine de salariés qui fait une exploitation forestière et des travaux d'environnement, avec un lien dans le transport, pour transporter ses propres produits.
Elle a quel âge à peu près l'entreprise ?
Elle a été créée en 2003 ou 2004.
Et aujourd'hui, vous avez des besoins en recrutement sur des postes spécifiques ?
Alors toujours, on en a besoin en tant que chauffeur de machine, sur le transport en chauffeur poids lourd et un peu en travaux manuels sur des bûcherons.
Et sur un poste du coup de chauffeur de machine, est-ce que tu peux nous dire un peu la journée type conducteur de machine ? Qu'est-ce que fait une personne qui aura ce poste-là ?
Alors oui, bien sûr. Le matin, il va commencer à 6h. Donc soit arriver au dépôt à 6h, soit partir de chez lui à 6h, comme il veut, en fonction de sa localisation, d'où il habite, et en fonction de l'emplacement du chantier. Il va arriver sur le chantier, il va faire l'entretien de sa machine, la mettre en chauffe et attaquer à travailler suivant ce qu'il fait. Donc après, le chauffeur de machine, ça peut être des abattages, du débardage, du broyage, tout ce qui est en lien avec l'exploitation de la forêt. Voilà.
L'exploitation et l'entretien.
Et les chantiers, c'est environ sur quel... vous déplacez sur quel...
Ouais. Alors EBE, c'est quand même pour une exploitation forestière, une belle boutique. On va intervenir de Aix à l'Espagne en montant jusqu'à Mende.
Voilà. Toi, par exemple, quand même, qu'est-ce qui t'a amené chez Environnement Bois Énergie ?
On rigole parce qu'il ne veut pas répondre.
Alors non, moi j'ai commencé chez EBE comme chauffeur de broyeur, où je suis arrivé ici par hasard.
Broyeur forestier.
Broyeur de sol forestier. Où je suis arrivé, avant de faire ça j'étais dans les chevaux, dans l'agricole. Et j'ai coulé une boutique juste avant le Covid. Et la forêt me plaisait et j'ai eu l'opportunité et voilà, je suis arrivé, tout simplement. C'est un métier plutôt de passion et d'envie plutôt que de formation et voilà, tout simplement.
On aime tous la forêt. C'est le slogan. Et les besoins en recrutement aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez vu sur le salon TAF ? Comment ça s'est passé, les échanges avec le public?
Alors, on a vu des gens plutôt intéressés dans l'échange. Des coordinateurs de filières assez déconnectés de la réalité. C'est-à-dire qu'ils veulent bien former les jeunes, nos prochains travailleurs. En revanche, ils ne les forment pas comme il faudrait. Le truc tout bête, c'est pour nos alternants, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'en prendre pour la simple raison que dans leur convention, ils vont avoir des horaires qui sont déconnectés des nôtres. Et que un jeune qui n'a pas le permis, qui doit venir en chantier, s'il ne part pas avec son chef d'équipe, entre guillemets, s'il ne part pas avec le matin à 6h, il ne part pas. Donc il ne peut pas travailler et du coup on ne peut pas le prendre. Donc voilà, c'est un gros souci dans la filière, enfin, dans la partie formation et voilà.
Me reconnecter à la réalité du métier. Ok, merci.
De rien.
Merci beaucoup. Et nous rejoignons l'entreprise Boisevia avec le gérant donc de cette entreprise, Rémi Chante. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, alors Boisevia, c'est une entreprise basée à Rivière. On accueille aussi donc le chargé d'affaires Frédéric.
Bonjour, bonjour.
On a plusieurs réalisations d'ailleurs de Boisevia qu'on peut voir sur l'espace, un banc, du matériel de randonnée. Donc on devine à peu près le métier. Alors, qu'est-ce que fait Boisevia ?
Alors, Boisevia conçoit et fabrique du mobilier urbain à partir d'essences locales, parfois aussi en utilisant du métal. Aménage aussi les espaces naturels par des constructions sur mesure, type passerelles, belvédères, théâtres de verdure. Et aménage aussi les sentiers de randonnée par de la signalétique directionnelle, d'information, d'interprétation du patrimoine. Voilà nos activités.
Est-ce que tu peux nous dire, si vous êtes là, est-ce que c'est pour parler du métier ou est-ce que vous avez des besoins en recrutement spécifiquement dans l'entreprise?
Alors, tout de suite, des besoins de recrutement, pas forcément, mais par contre, on est intéressé par la formation des jeunes et l'apprentissage. Parce qu'on est quand même sur un métier un petit peu particulier qui fait appel à différentes qualités et activités professionnelles qui mélangent l'espace vert et l'aménagement paysager, mais aussi le métier de charpentier et de menuisier. Et qui, pour nous, ça serait intéressant d'intégrer des jeunes dans l'entreprise afin de les accompagner dans leur apprentissage pour les former à notre métier qui est voilà, un petit peu un métier de niche.
Et justement, est-ce que si on te demande de nous décrire une journée type d'une personne qui travaille chez Boisevia, est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments un peu clés qui reviennent souvent?
Bah, une journée, c'est plutôt des projets sur une semaine, mais on est répartis en équipe. Il y a quand même aujourd'hui chez Boisevia une équipe qui est à l'atelier, qui reste à l'atelier.
Vous êtes combien d'ailleurs chez Boisevia?
Alors, on a un peu des intervenants extérieurs et un petit peu d'intérim, mais on est quasiment une dizaine à bosser tout le temps. Et donc, avec une équipe dédiée à l'atelier, qui va passer aussi sur différents postes pendant sa journée, hein, qui peut travailler du bois pour monter un banc, par exemple, peindre aussi du mobilier directionnel pour les randos. Des activités comme ça. Et après, on a les équipes de pose qui, eux, partent avec ce qui a été fabriqué la plupart du temps chez nous pour aller le mettre en place sur différents sites, sachant qu'on voyage pas mal par rapport à notre activité et que du coup, on est amené à aussi être en déplacement. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais aussi de semaine. On est plus sur des tâches à la semaine en général, sur des chantiers comme ça. Et après, chez nous, il faut savoir aussi que tout le monde est polyvalent, enfin on essaye en tout cas de rendre nos salariés le plus polyvalent possible pour que même les gars du terrain sachent quand même travailler en atelier sur les machines et du coup une meilleure appréhension du mobilier qu'ils vont ensuite mettre en place. Ils le connaissent mieux, ils savent comment il est fabriqué et voilà comment il doit être installé, quoi.
Et du coup, vous intervenez sur quel secteur à peu près? Vous allez jusqu'où?
Alors, quand on part sur des marchés, parce qu'on travaille essentiellement sur du marché public, 98%, donc que de l'appel d'offres. Donc la plupart de nos clients sont les départements, communautés de communes, communes. Quand on doit se déplacer pour la pose, on essaye de rester sur une partie sud de la France. Et après, aujourd'hui, on est équipé en atelier pour fabriquer donc, tout ce qui est le mobilier directionnel des sentiers de randonnée et d'interprétation. Et là,
tu restes en dessous ?
Quand il n'y a que des marchés de fourniture, potentiellement, on peut répondre sur tout le territoire français. Quoi.
D'ailleurs, ben, on voit quelques réalisations ici sur le stand de la filière Forêt-Bois. Ben, des panneaux de randonnée pour le Puy de Dôme ou de le parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Un magnifique blanc. Bon, il est en châtaignier Cévenol, je crois. D'ailleurs, cette gamme s'appelle le Cévenol.
Cette gamme s'appelle le Cévenol. Un petit clin d'œil à la ligne de chemin de fer parce qu'on l'a développée pour les voies vertes. Donc le banc en fait a un petit un système pour venir coincer la roue du vélo et se permettre de faire la pause avec les enfants, ou sans les enfants d'ailleurs, mais quand on est en train de pédaler.
D'accord, merci. Et on va peut-être se tourner vers Frédéric, parce que tu exerces donc le métier de chargé d'affaires. Est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, c'est un métier assez polyvalent. En gros, on part de la création du projet qui est souvent, voilà, comme Rémi l'a dit, comme on bosse en marché public, donc ça va être la réponse à des appels d'offres. C'est le démarrage des projets, avec donc tout ce qui est chiffrage, rédaction, des mémoires techniques, etc. Et après, jusqu'à l'aboutissement du projet et la réception par le client du projet fini, il y a donc tout le suivi, autant la mise en place des équipes, le piquetage avec les clients quand c'est des marchés où il faut poser des choses, le suivi d'achat de fournitures, quincaillerie, bois, etc. Donc jusqu'à la réception finale du chantier. Voilà. Donc il faut être... en même temps dans les bureaux, en même temps un peu sur le terrain, en même temps dans gestion de stock, un peu, etc. Donc voilà, c'est assez polyvalent.
Et on peut te demander comment toi tu es arrivé chez Boivia ?
Ouais,
Oui. Ouais, parce que ça...
Comment j'étais venu chez Boivia ? Voilà. Donc à la base, comme disait Rémi, moi j'ai fait partie... à la base, moi je suis guide de montagne et guide de vélo. Et j'ai travaillé aussi en métier hivernal. Je travaillais pas mal dehors dans tout ce qui était balisage, poste de clôture agricole, etc. Donc j'ai bossé pas mal pour Boivia en micro-entreprise, hein, à pas mon compte, comme prestataire. Et voilà, puis là, bon, là depuis quelques mois, enfin, travailler ensemble, voilà, il y a peut-être opportunité au sein de la boîte de créer un poste comme ça, donc de suivi, de commercialisation et aussi ben, voilà, de communication. Bon, ça, on est en train de mettre ça un peu en place sur ce que fait Boivia, essayer de développer un petit peu ça. Voilà, ça a été un peu le timing qui s'est trouvé comme ça, quoi. Voilà.
Très bien, merci. Et justement, en parlant de jeunes, on évoquait le CFA de Méjeanne Lesalès, donc, qui est spécialiste du bâtiment, et qui vont construire une nouvelle formation autour de l'ossature bois. Et donc, tu disais, Rémi, que tu étais peut-être intéressé. Donc, on fait un appel déjà aux jeunes pour s'inscrire en septembre 2026 au CFA, et du coup, qui pourront peut-être travailler chez l'entreprise Bois et Voilà. Si...
avec plaisir, en tout cas, qu'ils prennent contact avec nous et nous, on va se renseigner un peu plus sur cette formation et voir comment on peut éventuellement adapter un poste d'apprenti dans notre entreprise.
En tout cas, merci Rémi Chante et Frédéric.
Merci à vous. Merci. À très bientôt.
Eh bien, on est maintenant avec le CFA de Rodillan, aussi appelé Agrocampus Nîmes Rodillan Marie Durand, si je ne me trompe pas. Donc on est avec Raoul, professeur, coordinateur, Camille et Nicolas, donc deux jeunes alternants ou étudiants. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles formations sont dispensées au CFA du coup ?
Alors en fait, sur l'agrocampus de Rodillan, on a des formations agricoles, en milieu de l'eau, en général et après plus spécialement en agriculture. Là ici on représente plus l'aménagement paysager aujourd'hui, et là vous avez deux apprentis qui sont en spécialisation en maçonnerie paysagère, C'est-à-dire qu'ils ont déjà tous les deux un bac pro et un BTS pour le deuxième. Et là, ils viennent vraiment se spécialiser dans du concret. Voilà, auparavant, ils ont déjà appris pas mal de choses. Tu peux peut-être en parler, toi.
Oui, on a appris beaucoup de techniques d'entretien, de création, des gestions de parcs et de jardins, la maîtrise de l'eau, la maîtrise de beaucoup de matériaux.
Et... Quel âge as-tu, Nicolas ?
Moi, j'ai 23 ans.
Et qu'est-ce qui t'a attiré au CFA de Rodillan ?
En fait, depuis tout petit, moi, je jardine avec ma famille, mes grands-pères, etc. Et j'ai appris que ce lycée-là était spécialisé dans le paysage. Et du coup, j'ai directement été là-bas. Voilà.
Et toi, Camille, quel âge as-tu ?
J'ai 20 ans.
Et comment tu es arrivé au CFA ?
Un peu par défaut. Je ne savais pas quoi faire avant de ma vie et au final bah, ça m'a plu, j'ai accroché direct d'être dehors, travailler, avoir un métier physique où je peux me dépenser. Donc voilà.
Et du coup là, cette formation là, ça mène à quel métier, quel type de structure employeuse ?
Alors en fait, les spécialités, elles s'adressent à un public qui a minimum un bac, comme j'ai dit. Et derrière, c'est pour devenir des techniciens vraiment spécialisés sur une tâche ou sur plusieurs tâches, selon s'ils choisissent un ou plusieurs certificats de spécialisation. Et derrière, c'est pour gérer des chantiers d'aménagement complets, en fait, et avoir la charge du début à la fin du chantier, en fait. Voilà. Et juste de petit aparté, en fait, là, on a des apprentis, des lycéens sur la structure de Rodillan. Et là, Camille, lui, a fait un bac pro au lycée. Et après, il est devenu apprenti. On a un grand transversal qui se fait entre l'apprentissage et l'initial, avec possibilité de transiter d'un côté à l'autre régulièrement, voilà, s'il y a des soucis, et ça c'est un grand plus qu'on a.
Parlant d'apprentissage, c'est difficile donc de trouver des entreprises qui accueillent des apprentis ?
C'est assez compliqué, mais on arrive toujours à trouver une entreprise qui accepte de nous recevoir, malgré, grâce aux aides déjà de l'État, qui permettent de payer moins cher des apprentis, et voilà. Au final, on trouve toujours.
On profite pour poser aussi la question à Nina, qui est aussi au CFA de Rodillan. Donc, toi aussi, tu es étudiante ?
Oui, je suis aussi étudiante en CS construction paysagère.
Et ça a été difficile pour toi de trouver une entreprise d'apprentissage ?
La vérité, non. Ça n'a pas été compliqué. J'ai gardé l'entreprise que j'avais en stage pendant mon bac pro. Et ils m'ont repris.
Merci. Et du coup, là, vous êtes au salon TAF, donc ben, ça s'est bien passé pour vous ? Vous avez pu bien échanger avec le public ? Comment ça s'est déroulé ?
Alors, on a eu pas mal de prises de contact, c'était assez intéressant aujourd'hui. Beaucoup de gens intéressés par le côté nature, écologie. Voilà, on sent qu'il y a une sensibilité en fait qui est présente. Beaucoup de gens en réinsertion ou en réadaptation professionnelle, voilà, qui essayent de s'orienter plus vers la nature et le paysage. Et des gens aussi sensibles avec l'eau. On a eu pas mal de contacts dans ces points de vue-là.
Eh ben, merci à vous, merci à vous tous.
Merci. Et on rejoint notre dernier invité, enfin invité, c'est plutôt nous qui nous invitons, Kevin Rudowski, l'entreprise entre Seven et Garrigue, est basée à Ribot-les-Tavernes. Bonjour.
Bonjour.
Alors, quel est votre métier ?
Alors, moi je suis arboriste, grimpeur et bûcheron.
La totale.
La totale, voilà. Après, en tant que bûcheronnage, je fais pas du bûcheronnage pur de l'exploitation forestière.
Oui.
Moi, je me suis spécialisé dans tout ce qui est travaux forestiers. Donc en fait, ça commence de la plantation jusqu'à la première exploitation, en fait, aux premiers éclaircies où on commence à vendre le bois.
Voilà. D'accord, merci. Oui, la plantation, ça c'est un métier qui est assez recherché aujourd'hui parce qu'on vit le dérèglement climatique. Hein. On plante beaucoup et donc c'est un métier assez rare finalement.
Oui, c'est un métier où il y a très peu de personnel au final.
Oui.
On trouve beaucoup de monde dans l'exploitation, mais très très peu dans ce métier-là parce que c'est très peu connu et puis c'est un métier qui est hyper fatigant et très physique.
Est-ce que vous pouvez nous raconter le métier de plantation, de planteur, là, voilà, en quoi ça consiste ?
En fait, ça consiste ce qui s'est passé généralement, c'est qu'il s'est passé qu'il y a eu une coupe rase où on a coupé des arbres. Et
souvent des périssants chez souvent, vous,
alors,
ça arrive
voilà, dans Lozère en l'occurrence, oui, c'est souvent des périssants, c'est des coupes qui sont dus aux scolytes souvent. Et donc nous, en fait, on intervient derrière. On fait ce qu'on appelle une préparation de sol. Donc on fait intervenir une pelle. On fait la préparation de sol. Donc il va creuser. Non, pas forcément un trou. Il va juste mélanger la terre pour que nous, derrière, quand on va venir planter les arbres, ce soit plus facile pour nous.
Oui,
tout simplement.
Et que les racines aussi, peut-être.
Et que les racines s'installent plus facilement. Quoi.
Voilà. Combien d'arbres vous pouvez planter par jour? Ah mince, coupure. D'arbres on peut planter par jour?
Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du sol, de la pente. Parce que la pente, ça contribue énormément. Ça varie, en fait, on va commencer à 300 plants et ça peut monter jusqu'à 800 plants par jour.
Voilà, 800 arbres plantés par jour, ouais. Qui vivront grâce à vous.
Si tout s'est bien passé et si on a fait les entretiens corrects derrière, oui. Ça, voilà, 60 ans plus tard, on pourra les exploiter. Quoi.
Et quand vous intervenez dans les Cévennes, quelle essence vous plantez majoritairement?
Là, dans les Cévennes, on commence à venir vers... On commence à introduire des essences en fait qui demandent peu d'eau. Donc en l'occurrence, par exemple, ça va être du chêne blanc, ouais. Le chêne blanc qui demande pas d'eau, qui est un chêne qui est issu vraiment du Gard, enfin sud Gard, et voilà. Et on va planter des résineux du style, par exemple, le cèdre, ouais. Voilà, du cèdre qu'on plantait pas à l'époque. Hein. Et on commence à délaisser toutes ces essences-là qui sont le Douglas, hein, l'épicéa. Ouais, l'épicéa, on a complètement abandonné, c'est fini. Hein, on introduit du mélèze dans les endroits un peu hauts, sur les goales et tout ça. On met du mélèze aussi. Quoi. Et puis du chêne rouge. Okay. Ouais, le chêne rouge marche super bien par ici.
Ouais. Du coup, vous êtes au Salon TAF aujourd'hui. Pourquoi? Et comment ça s'est passé les échanges avec le public? Pardon.
Aujourd'hui, je suis venu surtout ici pour un peu représenter le métier parce que personne ne le connaît réellement en fait. Hein. Et les échanges qu'on a eus, j'ai eu avec les gens, c'était plutôt sympathique. Hein. On a discuté. On discute, enfin moi je suis passionné donc je parle de mon métier facilement et avec faveur quoi, hein. Les gens étaient plutôt contents et puis les gens sont venus plutôt demander comment ça se passait, comment c'était, plutôt que venir chercher du travail en réel quoi.
D'accord.
Voilà, là c'était vraiment de venir discuter, savoir comment ça se déroulait quoi.
Mieux connaître votre métier.
Ouais. Voilà, ouais.
Parce que vous avez besoin de recrutement?
Non, à l'heure actuelle, moi, l'entreprise, on est l'effectif est au complet, on est quatre.
Oui,
on est quatre, j'ai un employé, plus un apprenti et deux stagiaires, donc c'est bon, ça suffit pour le moment. Je fais énormément dans la formation, donc voilà, mais après, pour le moment, le travail ne me donne pas encore accès à prendre du personnel. Quoi.
D'accord. Et comment vous êtes vous-même arrivé vers ce métier?
Depuis l'âge de 5 ans.
Voilà, c'était tôt.
Ah ouais, depuis l'âge de 5 ans. Depuis l'âge de 5 ans, je voulais travailler en forêt.
Ah oui.
Et donc je me suis très très vite orienté vers ça. J'ai fait des études forestières. Hein, et j'ai un cursus qui est un peu différent, c'est vraiment la forêt qui m'a prise dès le départ. Quoi.
La forêt métier passion.
C'est ça. La forêt métier passion. De toute façon, c'est un métier de passionné. Hein. Mais je pense que si vous avez discuté un peu avec tout le monde, vous allez voir que...
Exactement ce que nous a dit, ce que nous ont dit les autres personnes.
De toute façon, il faut être passionné pour travailler là-dedans, sinon on ne fait pas de vieux os.
En tout cas, merci.
Ben, de rien.
Merci beaucoup.
Ben, merci. Merci à vous.
Donc on fait quand même la pause musicale sur ce Salon TAF. Voilà, on va écouter le groupe Quantique avec leur chanson Soul Clap.
Nous sommes de retour à Florac dans le studio de Radio Barthès et c'est l'heure de la chronique d'Emeric Sulmont du Parc National des Cévennes.
Plantes et animaux des bois.
Un contact avec Dame Nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers les écharpes de brume.
Il y a des hirondelles, des chauves-souris, il y a pas mal d'amphibiens.
Et bonjour Emeric, comment vas-tu ?
Très bien.
Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Eh bien j'avais envie de revenir, mais c'est le métier qui a voulu ça, enfin rendez-vous sur le terrain qui a voulu ça, revenir sur l'incendie de Bessèges-Bordezac qui a eu lieu en juillet 2022 et qui avait beaucoup fait peur de lui parce que c'était le premier d'une très longue série. L'année 2022 a été très très brûlante, si on peut dire, en France. Et c'était l'un des premiers gros incendies de 600 hectares. Et on a eu l'occasion avec des collègues de retourner sur site et de voir comment la nature reprenait ses droits. Et du coup, ça m'a inspiré une chronique sur une plante qui a bien profité de cet incendie et qu'on appelle l'asperge des enfers, si on connaît bien la mythologie grecque. Et je vous en parle après. L'asperge des enfers. Mais juste pour faire un petit topo sur cette visite, l'objectif était un peu pour nous, Parc National, c'était de donner un avis sur des différents travaux. À la fois, ce qui a été fait à la va-vite, c'est-à-dire des travaux d'exploitation des bois morts suite à l'incendie, pour essayer de récupérer un maximum de ce qui avait été en partie brûlé, tout en laissant les vivants. Ça s'est fait un petit peu dans la douleur, c'est mon avis, mais c'est voilà, il y a eu une circulation un peu sur toute la zone qui avait été incendiée, qui est une zone qui a déjà été incendiée maintes fois par le passé, donc elle a déjà vécu et revécu des incendies. Ce qui est dommageable, c'est que c'est une partie des morts, des petits patchs de pins de Salzmann qui ont malheureusement brûlé.
Oui.
Alors, c'est pas des dizaines d'hectares, mais c'est quelques hectares qui ont disparu suite à cet incendie. Et ça coïncidait aussi avec des petites zones de vieilles chênaies, de chênaies pubescentes, qui étaient là et qui ont également été pas mal souffert. Et toute la zone a vraiment brûlé à 95%. C'est vraiment 600 hectares d'un seul tenant et bien propre. Du coup, tout a été remis à nu, ça veut dire que c'est la roche à nu, c'est-à-dire des grès là-bas, des grès et conglomérats, et puis des zones très argileuses. Et la végétation qui s'en remet s'est constituée au bout de 3 ans, là, puisqu'on était en 2025. C'est essentiellement des arbousiers à grande vitesse. L'arbousier aime. Si vous avez un endroit où il y a beaucoup d'arbousiers, vous pouvez être sûr que c'est un endroit où ça a peut-être cramé il y a quelques années, parce que l'arbousier adore le feu. Et il se remet très bien. Au bout de 3 ans, il fait déjà plus d'1 mètre de haut. Et il est accompagné de filaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la filaire, mais c'est un cousin de l'olivier. Ça ressemble un peu à un olivier miniature. Et ça n'a pas le feuillage glauque, mais voilà. Il y a arbousier, filaire et bruyère à balai. C'est vraiment les 3 espèces qui couvrent à peu près, qui ont recouvert la zone assez rapidement. Et curieusement, on pouvait s'attendre à ce que le pin maritime ou même un petit peu de pin de Salzmann tire son épingle de cet incendie. Et 3 ans après, on ne peut pas dire qu'il y a un semis dense de ces 2 essences, loin de là. Et donc, il y aura vraiment un gros effort de plantation à faire. Et l'ONF, qui est gérante sur ce secteur-là, même si c'est des bois communaux, est en train de se pencher sur qu'est-ce qu'ils vont replanter. Il y a déjà le pin de Salzmann qui est évidemment une essence hyper adaptée qui va être choisie, mais il y a évidemment à mixer avec des feuillus pour limiter le caractère invasif. Et ils vont maintenir, puisque maintenant tout est ouvert, maintenir une grande zone de coupure, ce qu'on appelle les coupures de combustible, là, qui font plus de 100 mètres de large et qui permettent de limiter la progression des incendies. Voilà, ça c'était un peu pour le rapide coup d'œil. Mais il y a une autre plante, pardon, vas-y.
Tu disais au niveau du sol, du coup, il y a eu des gros dégâts. Là, tu disais qu'il y avait la roche qui était à nu.
Oui, évidemment, c'est des sols qui ont déjà vécu de nombreux incendies, c'est certain. Ce sont aussi des sols particulièrement pauvres. Les sols argileux, graisseux, c'est pas des sols qui accueillent facilement des plantes luxuriantes, sauf le grès dans des contextes humides, ça peut être intéressant. Mais Ouais, il n'y a pas enfin, on va dire que ça a déjà tellement brûlé hein, de nombreuses fois qu'il n'y a pas eu non plus une perte de sol énorme. Mais le peu qui s'est passé, ça sensibilise énormément les terrains à l'érosion. On a pu voir des grandes zones qui commencent à s'éroder. Ça, c'est assez dommageable, notamment suite aux travaux. C'est aussi une zone extrêmement stérile. Elle n'a pas été trop touchée par l'exploitation minière du 19e et 20e siècle. Ça reste dans le bassin houillé, c'est-à-dire le bassin qui a produit beaucoup de charbon du côté de la Grand-Combe et de Bessèges, mais ce n'est pas un secteur où il y a eu des mines. Donc c'était une zone, c'est pour ça qu'il y avait encore du pin de Salzmann, c'était une zone qui avait été peu touchée par l'exploitation minière.
Okay.
On peut imaginer que voilà, tout le bassin houillé des Cévennes était couvert de pin de Salzmann avant qu'on y découvre la richesse du charbon. Mais voilà, je m'égare, et j'ai oublié de parler de quelques espèces remarquables qu'on a découvertes aussi, qui sont connues dans ce coin-là. Vu que c'est une zone qui avait été un petit peu laissée de côté par l'exploitation minière, elle a accumulé un certain nombre d'espèces qu'on pourrait considérer comme un peu relictuelles d'une période climatique plus favorable, ou en tout cas des zones qui n'ont pas été touchées. Et donc il y a des espèces, à chaque fois dans ce genre de contexte, il y a des espèces qui traduisent ce laisser tranquille pendant quelques décennies, voire siècles. Je pense notamment, ça paraît un peu improbable, à 250 mètres d'altitude, de trouver de la Drosera. Et donc, c'est un secteur où on trouve dans le fond des ruisseaux sur grès de la Drosera, et ça, c'est tout à fait remarquable. Il y a également de la gentiane pleumonante. Ça, c'est une gentiane que normalement on trouve que sur le sommet du Mont Lozère ou de l'Aigoual, et qui est présente dans ce secteur-là. Ainsi qu'une plante tout à fait étonnante qui est la lobélie brûlante. C'est une plante tout à fait. Qui avait été découverte il y a 150 ans par le botaniste du Gard, et qui n'avait pas été revu avant 2000, et qu'on a retrouvé en 2000, et qui est une petite plante associée au cours d'eau atlantique, et que les premières stations sont à 150 km plus à l'ouest. Donc c'est vraiment une station très isolée, un isolat.
Okay.
Donc il y a tout un tas, voilà, il y a à la fois des plantes méditerranéennes, il y a plein de petits carex étonnants. Il y a ce petit cortège de plantes atlantiques ou montagnardes. Et puis, une autre curiosité qui s'illustrait, là, je vous parle de plein de petites plantes, mais un muscariforesin, qui est plutôt une plante cosnarde, curieusement, et qui trouve aussi un refuge dans ce secteur-là. Il y a 3 ou 4 plantes cosnardes. Mais voilà, je m'égare. Et j'oublie de parler de la plante dont je voulais vous parler, qui est ce que j'ai appelé l'asperge des enfers, c'est l'asphodèle. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est cet asphodèle, c'est ce qu'on appelle l'asperge des enfers dans la mythologie grecque, parce qu'elle évoque le pré des asphodèles. Le pré des asphodèles, ça vous parle ou pas du tout? Vous connaissez votre mythologie grecque ou pas?
Non,
du tout?
Non, comme ça ne me dit rien, non.
Moi non plus, je ne le connaissais pas avant, je me suis plongé là-dedans. Mais le pré des asphodèles, c'est si vous et moi, on meurt. En gros, on va pas aux enfers, on va pas forcément aux Champs-Élysées qui est réservé aux gens très vertueux qui ont accompli des actions héroïques, sauf si vous avez accompli des actions héroïques. Et nous, on va dans le pré des asphodèles. C'est le lieu où en fait séjournent les morts qui n'ont fait ni action héroïque ni action digne d'aller aux enfers, qui n'ont pas fait de crime, quoi. Et donc ce champ, il est couvert d'asphodèles, et c'est j'aime bien ce lien parce qu'en fait l'asphodèle adore le feu, et donc c'est assez rigolo qu'elle soit liée un peu aux enfers, asperge des enfers, parce que voilà, elle abonde après les feux, elle était aussi beaucoup plantée dans les cimetières pour fleurir les cimetières, et donc il y a un lien à la fois naturel et mythologique entre l'asphodèle et le feu.
Et alors, est-ce qu'elle ressemble aux asperges sauvages qu'on peut ramasser dans la garrigue à certaines
saisons? C'est beaucoup plus costaud, ça ressemblerait, je ne sais pas si tu connais la cime, c'est une grande plante comme, attends, j'essaie de te... Un lys avec des fleurs de 1 à 3 cm de diamètre, okay, qui est en grappe,
ouais,
très haute, qui peut monter jusqu'à 1 mètre, même 1 mètre 50, hein, quand c'est bien dopé, avec une grosse touffe de feuilles à la base, très luxuriante, un peu comme du poireau, mais très très luxuriant.
Okay.
Et ça explose dès qu'il y a un incendie, dans dans toutes les parties siliceuses, que ce soit les mors, les stérelles ou toutes les cévennes. À chaque fois, on en a plein.
Et comment on
il y a plein d'usages. Alors, Pardon, vas-y.
Non, j'allais te demander comment on appelle, il me semble qu'elles ont un nom, mais je l'ai oublié, les plantes là, du coup, qui profitent des incendies pour se disperser et se développer.
Eh bien, des pyrophytes ou des pyrophiles.
Ah ouais.
Pyrophytes, parce que c'est des plantes. Ou pyrophiles, il y a aussi des animaux qui aiment bien ça, mais des pyrophytes.
Okay.
Il y a, dans les pyrophytes, ben, il y a la sphodèle, mais il y a aussi les cystes.
Ok, ouais.
Les cystes abondent après les feux. Les usages, parce que c'est une plante qui a été beaucoup utilisée, mais pas du tout aujourd'hui. Mais moi, j'ai rencontré des gens qui l'ont utilisée, notamment les fruits. Ça fait des fruits gros comme des cerises, qui ont un vague goût de petits pois, mais j'ai pas trouvé ça excellent, mais ça peut se manger, on va dire, voilà, c'est comestible, mais faut pas en abuser. Les graines, on peut les griller, et les tubercules, on peut les broyer. Mais alors, j'ai lu un truc qui donne un peu le ton sur le goût de cette plante. Là, je vous cite le dictionnaire d'agriculture de Rosier. Rosier devait être, voilà, quelqu'un qui a écrit un dictionnaire d'agriculture au 19e siècle. La racine de cette plante bouillie, écrasée et lavée plusieurs fois dans l'eau pour lui enlever son âcreté naturelle et employée à faire du pain qu'on dit passablement bon lorsqu'il est mélangé à du blé, de l'orge, etc. Okay. Bref, on n'en fera pas, mais c'est bon à retenir si j'ai un jour, voilà, c'est la disette, on peut s'attaquer aux racines d'asphodèle. Voilà, sinon, à l'Antiquité, elle servait à soigner les plaies, les brûlures, et même les morsures de serpents, on peut tout imaginer. Et voilà.
Okay.
Et qu'est-ce qu'on peut encore raconter sur cette plante? Non, moi, je trouve que c'est une plante qui est commune, mais qui est localisée aux zones à incendie, en fait. Et voilà, les incendies ont parcouru et parcourront sans doute encore des hectares, et il y a toujours un enjeu à essayer de limiter leur extension, limiter l'inflammabilité des terrains. Et ça reste, voilà, c'est un lien qui est concret avec la forêt. On n'arrête pas d'en parler, nous, régulièrement. Mais il n'y a pas de solution miracle. Je vois qu'on parle beaucoup d'OLD, tout le monde en parle avec ce grand signe qui est l'obligation légale de débroussaillement. Et ça conduit parfois à ne pas laisser beaucoup de place à la forêt pour s'exprimer quand on commence à tout couper à la base. Puisque dans la biodiversité forestière, ben toutes les strates ont vraiment une importance capitale. Donc ouais, moi je suis assez, voilà, pas inquiet, mais attentif à ce qui se fait et se fera pour lutter après et pendant et avant l'incendie, en fait. Parce que c'est souvent après un incendie qu'il y a parfois plus de dégâts sur le sol, notamment, qu'avant ou pendant l'incendie, en fait. Voilà la petite note de philosophie.
Merci, Aymeric.
À bientôt, alors.
À bientôt. Et c'est donc la fin de cette émission de Palabre en forêt. Et on vous dit au mois prochain sur Radio Barthas 107FM.
Palabre
en forêt,
l'émission
Lozère-Gardoise
qui va à la rencontre
des acteurs forestiers d'ici et d'ailleurs,
avec une rubrique découverte des richesses naturelles des forêts sévenoles.
Retrouvez-nous un mardi sur deux à 11h
et un vendredi sur deux à 8h30
sur Radio Barthas
107.